donc une mère, mais il a aussi des frères, et ceux des Homères, qui sont Hypnos, le sommeil, et Thanatos, la mort. Enfin, ils sont étroitement liés avec Hermès, qui est le dieu du passage, de l'entre-deux-mondes. Et cet Hermès a une autre fonction qu'il est fort intéressant de rapprocher de celle-ci. Il n'est pas seulement, comme on l'appelle dans l'hymne homérique, le conducteur des songes, il est aussi le psychopompe, c'est-à-dire celui qui conduit les âmes des morts à leur demeure, et il est donc celui qui est étroitement associé à ce passage d'un univers à l'autre que représentent à la fois et le rêve et la mort, qui sont très précisément liés à un entre-deux. Il n'est pas étonnant que chez Homère, on nous parle si souvent des portes des songes.
Les songes vacillants nous viennent de deux portes. L'une est fermée de cornes, l'autre est fermée d'ivoire. Quand un songe nous vient par l'ivoire scié, ce n'est que tromperie, simple ivraie de parole. Ceux que laisse passer la corne bien polie nous cornent le succès du mortel qui les voit.
On s'aperçoit qu'il y a peu de mots qui veulent dire rêver, et que l'expression courante qui correspondrait à notre rêver, c'est voir un rêve, avoir une vision, c'est-à-dire que le rêve est toujours présenté comme une image venue de l'extérieur que le rêveur perçoit. Alors, dans les textes grecs, et ceux dès l'origine, on peut distinguer deux grands types de rêves. D'un côté, des rêves qui sont des messages où un dieu apparaît pour tenir un discours au rêveur, et d'autre part, des rêves images où il y a un spectacle, accompagné d'ailleurs quelquefois de paroles, et qui est soit un spectacle direct, c'est-à-dire on voit une scène qui se reproduira dans la réalité. C'est ce que les Grecs appelleront des rêves théorématiques, ou bien des rêves symboliques.
De toute façon, il est difficile de tracer vraiment une ligne de démarcation entre la réalité du rêve et la réalité elle-même.
Je crois que c'est même là l'aspect le plus original des Grecs. C'est-à-dire que très souvent, on se rend compte que le rêve est pour eux un type d'autre réalité. Et à part le fait qu'il se déroule dans la nuit et pendant le sommeil du rêveur, c'est quelque chose de tout aussi réel, de tout aussi précis, de tout aussi existant que la réalité elle-même.
Alors, il existe des formules qui annoncent dans un texte que nous avons affaire à quelqu'un qui est en train de rêver.
Plus exactement, il y a un contexte de nuit et de sommeil qui nous indique que ce qui va se produire là relève du domaine du rêve.
Je crois que le premier exemple qui est très célèbre, c'est le rêve d'Agamemnon dans l'Iliade, dans le chant 2.
Le rêve d'Agamemnon est un moyen utilisé par Zeus pour mettre en quelque sorte en mouvement l'action de toute l'Iliade.
C'est un rêve-message.
C'est un rêve-message où le dieu va donner un ordre à un mortel et le cérémonial, si vous voulez, est extrêmement développé. C'est-à-dire que dans un premier temps, le dieu Zeus va s'adresser au dieu rêve pour lui ordonner d'aller porter le message. On va nous décrire de façon très précise, exactement comme dans une scène de messager, le voyage de rêve depuis le moment où il quitte Zeus jusqu'au moment où il atteint la tente d'Agamemnon, puis Agamemnon lui-même. On nous explique alors que le rêve se posera sur la tête d'Agamemnon et il lui tiendra un discours qui n'est jamais que la reprise exacte du discours que Zeus lui a dit de tenir.
Il dit « Je suis le messager de Zeus ».
Non, plus exactement, il ne dit pas « Je suis le messager de Zeus ». Il se présente sous une forme déguisée, c'est-à-dire que le rêve doit se rendre crédible. Et pour cela, il adopte les traits d'un personnage humain qui est fiable, si l'on peut dire, pour le rêveur. Par exemple, là, il prendra les traits de Nestor, qui est le bon conseiller par excellence. Et ensuite, Agamemnon se réveillera et ira raconter le rêve, avec l'ordre qu'il contient, dans un récit qui est encore une troisième répétition, quasiment terme pour terme, du contenu du rêve.
Alors c'est un rêve tout à fait central dans l'Iliade, puisqu'il déclenche l'action.
Absolument, puisque c'est ce rêve qui est le moyen qu'a choisi Zeus pour provoquer une défaite achéenne, au terme de laquelle les Achéens reconnaîtront qu'ils ont eu tort de priver Achille de ses honneurs, et seront donc prêts à les lui rendre.
Alors toujours dans l'Iliade, le chant 23, là il s'agit d'un texte qui est très beau et qui se situe immédiatement après la mort d'Hector. C'est un texte qui nous raconte comment Achille dort et puis il a une apparition.
Oui, alors c'est un rêve tout à fait étonnant, d'abord parce que à la différence du premier, il est quasiment inutile pour l'action. car à la fin du chant 22, Achille a déjà donné tous les ordres pour que les funérailles de Patrocle aient lieu le lendemain. Or, Patrocle vient apparemment pour lui dire « Enterre-moi », ce qui sera fait le lendemain. La seule chose, si vous voulez, qui apparaisse de neuf, c'est qu'on lui demande simplement d'avoir une urne commune qui contienne à la fois ses cendres et celles d'Achille. Mais c'est très peu pour justifier cette intervention du point de vue de l'action. Par contre, ce rêve est extrêmement intéressant parce qu'il nous montre les parentés étroites qu'entretenaient pour les Grecs le rêve et le monde des morts. Ce qui apparaît en effet en rêve, c'est le fantôme d'un mort.
Ici, c'est la psyché.
C'est ça, c'est ce que les Grecs appellent la psyché, c'est-à-dire quelque chose qui est un double, pareil physiquement au corps. Mais je dirais même plus, pareil au vivant tel qu'il était avec ses vêtements, et on le précise. Et pour comprendre cette scène, il faudrait la comparer aux scènes de Nequia, c'est-à-dire aux scènes de descente dans les enfers, au chant 11, où on voit Ulysse rencontrer des morts. Il n'est pas question ni de sommeil, ni de rêve, et on s'aperçoit que l'expérience est exactement la même. C'est-à-dire que dans tous les cas, on insiste beaucoup sur le fait que ce qui apparaît là, c'est une forme immatérielle, quelque chose qui n'a plus de frénèse, c'est-à-dire plus de force vitale, ou on dit ailleurs plus d'énergie, plus de vigueur. C'est-à-dire que c'est l'eidolon qui apparaît dans le rêve, c'est un être qui ressemble en tout au vivant, sauf qu'il n'a plus la chose essentielle, c'est-à-dire la vie.
De toute façon, le texte est assez flou parce qu'on peut se demander si Achille dort ou s'il veille. C'est pas très, très clair.
C'est peu net. Il semble apparemment qu'Achille soit endormi. En tout cas, le texte le dit. Donc, on peut penser que ce qui se manifeste ici, c'est bien un rêve et que la psyché apparaît à l'intérieur du rêve.
Alors, dans l'Odyssée, nous avons un rêve qui, dans son mode de développement, rappelle le rêve d'Agamemnon, mais sur un mode plus familier, c'est le rêve du chant 6 qui fait intervenir Athéna.
Tout à fait. D'ailleurs, cette différence n'est pas étonnante, car on peut dire qu'alors que dans l'Iliade, tous les rêves sont des rêves d'hommes et des rêves de chefs. Par contre, dans l'Odyssée, ce sont essentiellement les femmes qui rêvent, c'est-à-dire Nausicaa d'un côté et surtout Pénélope qui est la grande rêveuse. Mais le rêve de Nausicaa est amusant parce qu'il apparaît comme une sorte de traduction dans un registre familier du rêve d'Agamemnon. Il s'agit en effet, pour Athéna, d'assurer en quelque sorte un bon accueil à Ulysse en Phéacie. Donc, pour cela, elle va prendre la forme d'une amie de Nausicaa,
qui prend la place de Nestor.
Elle va lui donner un ordre, mais ce sera plus, c'est une femme, il ne s'agit plus d'aller en combat, mais tout bêtement d'aller laver le linge. Et ça permettra à Nausicaa de réveiller Ulysse, grâce à une deuxième intervention d'Athéna, qui fera dévier la balle précisément du côté où Ulysse dort. Et Ulysse se réveillera, rencontrera la jeune fille, et sera par elle introduit dans le palais d'Alcinos. Donc c'est exactement le même type d'effet sur l'action, mais vous le voyez dans un registre tout à fait différent, beaucoup plus familier, proche de la vie quotidienne, plus subtil aussi, parce que Nausicaa ne raconte pas son rêve, elle fait des ellipses. On nous explique qu'elle a honte d'expliquer que c'est parce que son amie lui a parlé d'un mariage à venir, qu'elle est si pressée de laver tous les vêtements.
Alors, le deuxième texte que vous avez choisi dans l'Odyssée semble plus sophistiqué parce que ce n'est plus un rêve-message, c'est le passage du chant 19 qui met face à face Ulysse qui est déguisé en mendiant et Pénélope.
Voyons, donne-moi ton avis sur un songe que je m'en vais te dire. Je voyais dans ma cour mes 20 oies qui, sortant de l'eau, mangeaient le grain. Leur vue faisait ma joie. Lorsque de la montagne un grand aigle survint qui, de son bec courbé, brisa le col à toutes. Elle gisait en tas, pendant que vers l'azur des dieux il remontait. Et toujours en mon songe, je pleurais et criais, et j'étais entourée d'Achéennes bouclées qu'attiraient mes sanglots, et je pleurais mes oies que l'aigle avait tuées. Mais sur le bord du toit, il revint se poser, et pour me consoler, prenant la voix humaine, « Fille du glorieux Icare, sois sans crainte. Ceci n'est pas un songe, c'est bien en vérité ce qui va s'accomplir. Les prétendants seront ses oies. Je serai l'aigle, envolé tout à l'heure, à présent revenu. Moi, ton époux, je vais donner aux prétendants une mort misérable. »
D'abord, c'est un rêve à la différence des autres qui nous est donné que par un récit, par le récit du rêveur. D'autre part, c'est un rêve image et non plus un rêve message. Et il faut, dans la structure de l'Odyssée, montrer qu'il est absolument équivalent à un présage qui se manifeste dans la réalité et qui apparaît au champ 15. Pénélope, en effet, au champ 19, voit Vingt-Oies massacré par un aigle. Au champ 15, son fils Télémaque, au moment de quitter le palais de Ménélas, voit lui un aigle qui enlève dans ses serres une oie. Donc le présage est bien le même, en gros. Mais ce qui me paraît très caractéristique d'Homère, c'est que cette présentation de rêve symbolique est une présentation cependant extrêmement claire. Il n'y a aucun problème d'interprétation et l'interprétation est donnée immédiatement. Pour le présage, c'est Hélène qui dit « voilà ce que ça veut dire, Ulysse va revenir, il va tuer les prétendants ». Pour Pénélope, le rêve est d'une certaine manière auto-interprété, c'est-à-dire que c'est Ulysse qui dit « je suis l'aigle, les prétendants ce sont les oies ». Et cela veut dire que moi, Ulysse, je vais revenir chez moi et tuer les prétendants. Mais, et c'est là qu'on voit toute la sophistication du poète de l'Odyssée, ce rêve où Ulysse apparaît et s'auto-interprète est raconté à un mendiant qui n'est autre qu'Ulysse, à qui on demande d'interpréter le rêve, et qui ne peut bien sûr que confirmer la première interprétation.
Oui, alors ici se trouve un passage qui a eu beaucoup de succès, c'est la fameuse distinction entre les rêves véridiques qui passent par la porte de corne et les rêves faux qui passent par la porte d'ivoire. Qu'est-ce qu'il faut en penser ?
C'est probablement un des passages, je crois, de la littérature grecque qui a fait couler le plus d'encre. Il y a d'abord une chose à remarquer, c'est qu'alors qu'après Homère, et disons en gros à partir d'Hérodote, la grande distinction entre les rêves, ce sera entre des rêves qui sont envoyés par les dieux et des rêves plus ou moins produits par les hommes, ici, tout est mis dans la catégorie du rêve divin, et on en distingue deux types, des rêves qui sont des rêves destinés à se réaliser, et d'autre part, des rêves qui sont au contraire des rêves vains, trompeurs. Maintenant, pourquoi la corne, pourquoi l'ivoire? Ce qui est d'abord amusant, c'est de constater que les anciens se posaient déjà la question, et qu'ils en ont donné des interprétations assez amusantes. D'abord, par exemple, Stade nous dit que le rêve vrai est associé à la corne parce que la corne, c'est lié à la cornée de l'œil, que l'œil, c'est la vision et que l'autopsie est plus fiable, en quelque sorte, que l'ouïe. Parce qu'au contraire, si le rêve est associé à l'ivoire, c'est qu'ivoire égale dent, égale bouche, égale parole. Ce qu'il y a de sûr. Et ce que le texte souligne, et là les anciens encore l'avaient vu, c'est qu'il y a ici un jeu de mots. En grec, en effet, ivoire se dit éléphas. Mais il y a aussi un terme qui veut dire égaré, qui est éléphairomai. Et les deux mots sont volontairement rapprochés dans le texte homérique. Donc je crois que si l'ivoire est trompeur, c'est simplement parce qu'il est proche du mot qui signifie tromper. Et la corne, c'est pareil. Kéras est rapproché de Kraino, qui s'accomplit. Maintenant, si vous voulez vous amuser, on peut citer les interprétations des modernes. Pour les uns, c'est bien sûr moyen-oriental, puisque tout ce qui est grec doit plus ou moins venir de l'Orient. Et on comprend non pas la porte de cornes, mais la porte des cornes, c'est-à-dire que cela renvoie à des croyances mésopotamiennes, égyptiennes, où la porte occidentale serait gardée par un taureau, donc avec des cornes. Quant à l'ivoire, on ne sait pas trop quoi en faire. Ou alors, explication économique encore plus amusante, il y aurait eu, paraît-il, dans le monde égéen, beaucoup de faux ivoires. Et c'est pour cela que l'ivoire était associé à la tromperie.
Alors, on a eu aussi affaire à des explications de la part des psychanalystes, notamment américains, qui se sont penchés sur les rêves dans l'épopée, et plus particulièrement sur les rêves de Pénélope.
Ah, tout à fait. Et je dois dire que le rêve de Pénélope, avec ses 20 oies, sur lesquelles, ne l'oubliez pas, elle pleure, a excité leur verve, c'est-à-dire qu'au fond, Pénélope, le nombre 20 renverrait aux 20 années où elle a attendu Ulysse, elle penserait qu'au fond, après ses 20 ans de fidélité conjugale, elle a bien le droit de se remarier, et elle serait parfaitement triste de se voir privée de ses jeunes prétendants vers lesquels elle jette des yeux séducteurs. Mais je ne crois pas que le texte homérique permette le moins du monde ce type d'interprétation.
Oui, ces rêves n'ont de sens qu'à l'intérieur de la structure même du
récit. Absolument. Thank you.
Les rêves dans les textes littéraires de l'Antiquité diffèrent très nettement de ceux qui font autorité dans la littérature analytique. Cependant, on sait aussi toute l'attention que les psychanalystes, à la suite de Freud, portent à la tragédie grecque. Il ne faut donc pas s'étonner si les productions oniriques, qui occupent une place si importante dans le fonctionnement et la structure de la tragédie, ont été abondamment sondées, non seulement par Freud, mais par des auteurs aussi différents que Georges Devereux ou André Green. Alors, Suzanne Saïd, pourquoi les rêves rapportés par Eschyle, Sophocle, Euripide ont-ils tant intéressé les analystes ?
C'est parce que, pour des raisons diverses, ils ont tous pensé qu'il y avait une sorte de lien privilégié entre la tragédie et le rêve. Pour Devereux, le lien, c'est que la tragédie serait la seule à présenter de vrais rêves, ce qu'il appelle des rêves psychologiquement crédibles, et qu'on est donc fondé à les interpréter selon une lecture psychanalytique stricte. Pour Freud, c'est parce que la tragédie puise sa matière dans un type de rêve qui a valeur universelle. Enfin, pour Green, c'est parce que le théâtre a des liens particuliers avec cette autre scène qu'est l'inconscient, et qu'on peut donc essayer d'interpréter le rêve dans un contexte qui n'est plus la psychologie du personnage rêveur, mais qui est plus généralement l'ensemble de l'œuvre, qui joue le rôle que jouent les associations fournies aux psychanalystes par le psychanalysé.
Est-ce qu'on peut donner une définition de la fonction du rêve dans la tragédie à partir d'un exemple, le rêve d'Atossa dans les Perses d'Eschyle?
Je crois que c'est un exemple particulièrement clair. Ce rêve se situe en effet tout à fait au début de la tragédie, où la reine, qui vit dans l'angoisse depuis le départ de son fils, voit apparaître deux femmes, vêtues l'une d'une robe grecque, l'autre d'une robe perse, donc qui symbolise très évidemment Grèce et Perse. Xerxès cherche à les contenir, les attelle à son char, l'une obéit, l'autre se révolte, brise le joug, Xerxès tombe. Le premier point à remarquer, c'est que ce rêve qui fonctionne comme un présage n'est pas seul, car il est doublé d'un présage emprunté cette fois au vol des oiseaux, puisqu'on voit, Atossa raconte immédiatement après qu'elle a vu un aigle qui a eu la tête brisée par un milan. Dans les deux cas, devant ce présage qui a bien l'air d'être mauvais, on recourt à des cérémonies apotropaïques, en faisant des libations à la terre et aux morts, ce qui n'a rien d'étonnant puisque les rêves sont censés venir de là. D'autre part, ce qui est clair aussi d'après ce rêve, c'est que le rêve est une expérience psychique, c'est-à-dire qu'il naît de l'épouvante de la reine et que, d'une certaine manière, il la nourrit. Enfin, le rêve, et c'est là ce qui me paraît le plus intéressant, est un moyen privilégié d'écriture théâtrale. Le rêve peut apparaître comme l'un des moyens de préparer un dénouement. On a d'abord une annonce du désastre par le rêve, puis une annonce plus directe par l'arrivée du messager, et enfin une annonce spectaculaire au sens propre avec l'arrivée de Xerxès. Donc le rêve permet ainsi de créer une gradation. D'autre part, et c'est encore plus intéressant, le rêve est une sorte d'image en abîme de l'ensemble de la tragédie.
Il y a un jeu symbolique sur le terme même de joug.
Absolument. Le rêve annonce l'apparition de Xerxès en train de déchirer ses vêtements, mais il est aussi tout entier fondé sur une métaphore, celle du joug. Or, dans toute la tragédie d'Eschyle, le joug va réapparaître à plusieurs reprises pour symboliser, en les unifiant, les diverses formes de l'hubris de Xerxès.
C'est-à-dire la démesure du personnage.
C'est ça, le fait qu'il ait voulu asservir des hommes libres, et le fait aussi qu'il ait voulu asservir la nature en mettant un joug sur l'Hellespont. Or, comme pour les Grecs, la nature est divine, mettre sous le joug l'Hellespont, c'est chercher à vaincre les dieux.
Bien. Pour rester dans Eschyle, il convient, je pense, d'évoquer à présent le rêve de Clytémnestre, ce rêve qui est rapporté à Oreste par le Coryphée dans les Choéphores.
Mais le songe lui-même, peux-tu me le conter ?
Elle crut enfanter un serpent, disait-elle.
Dis-moi la fin. Comment se termine ce rêve ?
Elle, comme un enfant, l'abritait dans des langes.
Et de quoi vivait-il, le monstre nouveau-né ?
Elle-même, en son rêve, lui présentait le sein.
Et le sein n'était pas blessé par un tel monstre ?
Si, un caillot de sang. se mêlait à son lait.
Voilà qui pourrait bien n'être pas un vain songe.
Elle s'éveille et pousse un cri d'effroi. Et les torches, à qui l'ombre avait fermé les yeux, aussitôt dans la maison jaillissent en foule à la voix de la maîtresse. C'est alors qu'elle envoie ses offrandes funèbres, espérant y trouver le remède à ses maux.
Eh bien, je prie la terre qui nous porte. Je prie le tombeau de mon père de me laisser réaliser ce songe. Voyez, je l'interprète en le serrant de près. Si, sorti du même sein que moi, ce serpent, ainsi qu'un enfant, s'est enveloppé de l'ange, a jeté ses lèvres autour de la mamelle qui jadis me nourrit, et au doux lait d'une mère a mêlé un caillot de sang, tandis qu'elle, effrayée, criait de douleur, « Il faut !» Comme elle l'a donné au monstre qui l'épouvanta, qu'elle me donne aussi son sang, et c'est moi, le serpent. C'est moi qui l'a tué, ainsi que le prédit son rêve.
Il faut d'abord rappeler qu'Eschyle n'a pas inventé ce rêve, mais il en a déjà trouvé les éléments avant lui dans la tradition littéraire. On a conservé par chance un fragment d'un poète lyrique où on nous dit que Clytemnestre a vu venir à elle un serpent à la tête sanglante.
Oui, c'est Stésichore.
C'est Stésichore.
C'est
dans son Orestie.
Un poète assez fantomatique, d'ailleurs.
Oh, tout à fait. Nous en avons des petits bouts. C'est pour ça que c'est une chance d'avoir conservé celui-là. Et ce serpent se révèle être Agamemnon. Ce qui est au contraire frappant dans le rêve des Coéphores, c'est que le serpent n'est pas Agamemnon, mais visiblement Oreste. Et ici encore, il y a un jeu sur l'interprétation, car ce rêve qui met en scène Oreste sous forme d'un serpent est raconté à Oreste, qui l'interprète en disant « c'est moi qui, sous la forme d'un serpent, l'a tué ». Ce qui me paraît frappant aussi, c'est le rôle du rêve dans la construction de l'épouvante. Et là encore, on retrouve ce que nous avions dit à propos d'Atossa. Ce rêve naît de l'épouvante de Clytemnestre, et là encore, il lui donne des raisons supplémentaires d'être épouvanté. Enfin, ce qui est frappant aussi, c'est, je dirais, la brutalité du symbole, son caractère concret. Ce rêve annonce en effet directement la scène de meurtre. Et le caillot qui se mêle au lait est en fait la préfiguration de la scène où Clytemnestre, pour retenir son fils, va dévoiler sa poitrine en lui montrant ce sein qui la nourrit. C'est-à-dire que ce rêve nous dit, de la façon la plus claire, que le problème central des Coéphores, c'est le problème du matricide. Tout se joue en effet entre la mère et le fils. Le père n'y est mentionné à aucun moment. Et le fils apparaît comme un double de la mère, car Clytemnestre est figuré devant toute la tragédie comme un serpent. Mais il ne faut pas oublier aussi que pour les Grecs, le serpent est un animal familier dans les rêves. Et si on lit le traité d'interprétation des rêves d'Arthémidore, qui est une œuvre beaucoup plus tardive, on constate que le serpent, dit-il, indique maladie ou ennemi. Et en quelques conditions que vous mette le serpent, c'est en cette condition aussi que vous mettra la maladie ou l'ennemi. Or, le serpent fait saigner Clytemnestre dans le rêve, donc il dit clairement pour les Grecs que Oreste, l'ennemi, fera saigner sa mère.
On peut dire qu'à Épidaure aussi, le dieu apparaît parfois sous la forme d'un serpent.
Oui, mais c'est cette fois un serpent bénéfique et curateur. Ce n'est plus du tout un mauvais serpent. Et on a même, toujours dans Artémidore, une très longue liste de femmes qui enfantent des serpents. Chaque fois, le rêve a un sens différent selon la situation de la femme. Mais ce qui me paraît capital dans le rêve d'Eschyle, c'est moins l'enfantement du serpent que la conclusion du rêve, c'est-à-dire le serpent qui mord le sein. Et ça, Green a très bien remarqué qu'il se produit ici une sorte de circulation dans un monde clos, fermé, qui est le monde des relations mère-fils, où l'enfant ne sort du ventre que pour blesser le sein.
Par contre, chez Sophocle, où nous retrouvons ce même rêve de Clytemnestre, le matricide n'est plus du tout le problème central. Et il faut d'ailleurs préciser que le rêve est raconté par Chrysothémis, qui est la sœur d'Électre, et c'est un rêve beaucoup plus politique.
Oui, et aussi un rêve beaucoup plus symbolique, beaucoup plus distancié. D'abord, il est raconté par Ouidire, et on précise que la narration n'est pas complète, ce qui est déjà un premier jeu. Quant au contenu, c'est un rêve qui met en scène le père et uniquement lui, puisqu'on voit un Agamemnon qui revient à la lumière pour s'unir de nouveau à sa femme, et cette union est représentée de façon symbolique par le sceptre qu'il plante dans le foyer, et ce sceptre, qui est normalement un bâton sur lequel rien ne peut pousser, pousse un rejeton qui symbolise bien sûr le fils. Alors que pour Eschyle, la naissance c'est d'abord un enfantement par la mère, pour Sophocle c'est d'abord un engendrement par le père. Et ce qui compte, c'est la relation du fils au père, dont il est en quelque sorte la continuation exacte et le reflet. C'est aussi un rêve de pouvoir, comme le montre la présence du sceptre, et on aurait envie de rapprocher ce rêve de rêve analogue chez Hérodote, où l'arrivée au pouvoir de quelqu'un est symbolisée par une vigne qui étend son ombre sur toute la région qu'il doit gouverner, exactement comme le rameau étend ses lauriers sur toute la terre de Mycène. C'est un rêve symbolique qui montre bien que le problème de l'électre de Sophocle n'est plus le problème central du matricide, c'est devenu le problème du pouvoir, et la relation n'est plus une relation binaire mère-fils, mais on voit aussi un rôle de plus en plus grand joué par deux autres personnages qui compliquent, d'un côté Égiste et de l'autre électre.
Chez Euripide, le rêve de Clytémnestre n'existe pas, mais par contre, dans Iphigénie en Tauride, il y a quand même un rapport d'intertextualité où ce rêve apparaît sous la forme d'un pilier qui remplace un peu le sceptre.
De Vreux se demande si finalement le rêve dans l'Électre n'est pas remplacé par la ruse d'Électre où, pour tuer sa mère, elle prétend avoir accouché d'un garçon. On retrouverait ainsi, sous une forme très modifiée et très déplacée, un reste du rêve d'Échoéphore. Avec cette scène d'accouchement. L'électre d'Euripide, elle, ne comporte pas de rêve. Mais Euripide a réutilisé le thème de ce rêve dans l'Iphigénie en Tauride. Dans le prologue, l'héroïne raconte un rêve qui la ramène dans son passé. Elle se retrouve donc dans le palais de son père et il se produit un tremblement de terre. La maison paternelle s'écroule, il n'en reste qu'une seule colonne qui se révèle être le fils mâle. C'est déjà donc un rêve déjà compliqué. Le premier épisode est assez facile à comprendre, je dirais avec l'aide d'Artémidore ici encore, qui nous explique que s'il y a quelques tremblements de terre, cela indique que les affaires seront secouées, ainsi que le genre de vie du songeur, c'est-à-dire que ça indique un changement. Or, l'histoire d'Iphigénie en Tauride, c'est le départ de la Tauride vers l'univers grec. Ce type de rêve est précisément bon pour ceux qui désirent voyager, ce qui est très exactement le cas d'Iphigénie. Quant à la maison qui s'écroule, cela symbolise toujours, de selon Artémidore, le père qui meurt, ce qui est aussi le cas. Mais le deuxième moment est le plus important, lorsque il reste une colonne qui se transforme en Oreste. C'est tout à fait parallèle au sceptre qui se met à pousser un rejeton dans le rêve de Sophocle. Et l'interprétation est très claire, mais ici encore vous allez voir que Euripide se moque de nous. À ce moment-là, Iphigénie croit qu'elle fait une libation autour de cette colonne et qu'elle sacrifie. D'où elle comprend, cela veut dire que mon frère est mort. Mais pensons maintenant au sujet de la tragédie. Dans la tragédie, on va voir une Iphigénie qui, elle, va intervenir pour sacrifier Oreste. C'est cela que le rêve fait attendre au spectateur. On y arrivera presque, mais Oreste ne sera pas sacrifié. C'est-à-dire qu'ici encore, on voit Euripide qui déçoit une attente qu'il a précisément construite lui-même grâce à un rêve prémonitoire et qui joue en quelque sorte sur la foi des spectateurs dans les rêves.
Alors toujours chez Euripide, dans Hécube, nous avons un rêve qui suit l'apparition du fantôme du fils d'Hécube qui a été assassiné et qui apparaît, qui raconte la situation.
Oh, on ne peut même pas dire qu'il le suit. On peut dire que ce qu'on voit mis en scène, c'est un rêve. Et il y a deux scènes tout à fait extraordinaires dans la tragédie grecque qui nous permettent de voir la coprésence du rêve et du rêveur. Ce qui est tout à fait possible, étant donné les théories des Grecs sur le rêve, puisque pour eux, le rêve est une réalité objective, indépendante de l'esprit du rêveur. Donc on peut parfaitement les figurer l'un à côté de l'autre. Il faudrait peut-être parler rapidement des Euménides d'Eschyle.
Où nous avons la même superposition.
Où on a la même coprésence du rêveur et de son rêve, puisque ce sont les Érinies qui ont été endormies par Apollon et qui voient en rêve une Clytemnestre qui leur demande de poursuivre leur chasse et qui tente de les réveiller. Et ce rêve est certainement construit sur le modèle des scènes homériques de rêve. Car on peut rapprocher le premier mot que leur dit Clytemnestre, « Ah, vous pouvez bien dormir », du mot que le rêve dit régulièrement aux rêveurs chez Homère, « Comment tu dors ?» et en général pour s'en indigner. Le rêve de l'Hécube est du même ordre. Il faudrait plutôt le rapprocher, non pas cette fois du rêve d'Agamemnon, mais du rêve d'Achille. Car ce qui apparaît dans le rêve, c'est la psyché d'un mort, et la psyché d'un mort qui n'est pas encore enterré, donc ce qui est exactement le cas de Patrocle. Simplement, le rôle que joue ce rêve est complexe, c'est-à-dire qu'il sert à annoncer l'ensemble de l'action, puisqu'il annonce à la fois ce qui arrivera à l'ombre, qui finalement recevra une sépulture, et d'autre part, ce qui arrivera à sa sœur, qui va être sacrifiée sur le tombeau d'Achille.
On a une espèce de combinaison du rêve-message et du rêve-image.